Espace Mandoré, lacune, ils sont vus, les déserts verts, on les rêve, on les parlera, les oiseaux de jet immobiles, les armes couchées au soleil, le son des voix chantantes, les mortes, connivence, révolution, sale ardeur au combat, chaleur intense, mort et bonheur dans les poitrines mamelées, les phénix, célibataires et dorés libres, on entend leurs ailes déployées, les oiseaux, les sirènes nageantes, les arêtes translucides, les ailes, les soleils verts, les prairies violettes et plates, les cris, les rires, les mouvements, elles affirment triomphant que tout geste est renversement.
Bosé, Bafi, Sarah, Nice, Yol, Corée, Sabine, Daniel, Galvin, Edna, Joseph, Flore, Zita, Savé, Cornélie, Dropadi, Julienne, Hitman, Chloé, Desdemon, Raphaël, Iris, Vera, Arsimo, Elise, Brenda, Orphis, Hérodiade, Bérénice, Sigrid, Andover, Aimé, Pomme, Barbe, Bénédicte, Suzanne, Cassandre, Osmond, Jeanne, Hermine, Kika, Aurélie, Évangéline, Simone, Maximilienne, Calypso, Judith, Anne, Iseut, Christa, Robert, Blasta, Cléonice, René, Maria, Béatrice,
Monique la police, Vitic part en guerre.
Donc voilà, c'est la première émission sur les guerrières de Monique Wittig, un bouquin écrit qui est publié en 1969. Donc voilà, je vais faire une brève biographie de Monique Wittig pour comprendre un peu l'auteur avant de se plonger un peu plus dans le bouquin Les guerrières. Donc voilà, donc Monique Wittig, qui est une militante féministe lesbienne. Publie son premier roman, Le Poponax, en 64, aux éditions de Minuit, un bouquin sur l'enfance. Ensuite, en 68, elle s'engage dans les mouvements de révolte étudiants et ouvriers. Par-delà, elle convoque aussi la première réunion du EMLF avec Antoinette Fouque et Simone de Beauvoir. Et termine aussi l'écriture des guerrières, qui est publiée en 69. Là, elle continue ses écrits et en 73, elle publie Le corps lesbien et en 76, avec son amante Sandzeg, elle écrit Brouillon pour un dictionnaire des amantes. Entre tout ça, elle monte aussi, après des scissions au sein du MLF, des groupes révolutionnaires féministes lesbiens, avec les Petites Marguerites, les Gouines Rouges et les Féministes Révolutionnaires. Voilà, elle continue toujours son écriture avec ses essais politiques, et notamment La pensée straight, qui influence encore et toujours la pensée féministe actuelle. Voilà, c'est un bouquin publié dans les années 80. Et elle continue après sur la fiction avec des pièces de théâtre et un dernier roman qui s'appelle Virgilnon, qui reprend la Divine Comédie de Dante, mais ici l'enfer, c'est le monde hétérosexuel. Et voilà, et Monique Wittig est mort subitement en janvier 2003. Voilà, son œuvre continue de nous traverser et de nous inspirer. Donc voilà, on va parler un peu plus précisément du livre des guerrières, c'est ce dont l'émission va traiter.
Voilà, du coup, pour présenter le bouquin, je vais être obligée de dire quelques conneries qu'on va déconstruire au fur et à mesure des émissions. Parce que, en fait, c'est un peu le principe chez Wittig de déconstruire tout ce qu'elle construit. Et donc, le livre, c'est une sorte d'épopée lyrique. Il faut vraiment le voir comme ça. En fait, elle est très influencée par le nouveau roman. Du coup, il ne prend pas des formes auxquelles on est habitué. Donc, c'est une épopée lyrique qui est faite de plein de paragraphes qui sont systématiquement des métaphores. Donc, c'est un peu comme si on lisait deux bouquins en même temps, voire trois, voire quatre, voire mille d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois qu'elle s'exprime, qu'elle prend une image, c'est pour nous envoyer ailleurs. On peut y lire plein d'autres choses, etc., etc. Et du coup, c'est un livre qui se déroule en trois parties, qui donne une impression de montée. Donc la première partie, c'est un peu la construction du monde. La seconde partie du livre, c'est peut-être plus en lien avec la force matérielle. Et la troisième, c'est ce qu'on a attendu tout le long, c'est la guerre, quoi. Et voilà, je pense qu'on va vous laisser découvrir le bouquin en lisant un peu quelques parties. Quand il pleut, elles se tiennent dans le kiosque. On entend l'eau frapper les tuiles et ruisseler sur les pentes du toit. Des franges de pluie entourent le pavillon du jardin. L'eau qui descend aux angles a un débit plus fort. Il y a comme des sources qui creusent les cailloux à l'endroit où elles touchent le sol. À la longue, quelqu'un dit que c'est comme un bruit de miction, qu'elle ne peut pas y tenir en se mettant accroupie. Certaines, alors, font cercle autour d'elle pour regarder les nymphes chasser l'urine. On va au marché pour se procurer les provisions. On passe devant les étals de fruits, de légumes, de bouteilles, de verres roses, bleus, rouges, vertes. Il y a des entassements d'orange-orange, d'ananas ocre, de mandarines, de noix, de mangue verte et rose, de brugnon bleu, de pêche verte et rose, d'abricots jaune-orange. Il y a des pastèques, des papayes, des avocats, des melons d'eau, des amandes vertes, des nèfles. Il y a des concombres, des aubergines, des choux, des asperges, du manioc blanc, des piments rouges, des citrouilles. Sur les bras nus des jeunes vendeuses, les guêpes sont posées qui vont et viennent. Ils se créent au-dessus des collines des marais tourbeux. La fange qui les constitue a la couleur du henné. Ils s'y forment des bouillonnements, des éclatements en surface, des bulles. Le bâton que l'on remue dedans est arrêté par des corps visqueux et mous. Il n'est pas possible de les amener au jour. Dès qu'on fait pression sur eux, ils se dérobent, ils échappent. Elles disent que par moments, les éclatements, les bulles sont accompagnés de gémissements, de murmures. Le soleil évapore les marais. La vapeur qui s'élève ainsi a une odeur nauséabonde.
Les petites filles cherchent dans les buissons et sur les arbres les nids des chardonnays, des pinsons, des linottes. Elles trouvent des serins verts qu'elles couvrent de baisers, qu'elles tiennent contre leur poitrine. Elles courent en chantant, elles sautent par-dessus les pierres. Elles sont 100 000 qui regardent les maisons pour abriter les oiseaux. Elles les ont dans leur empressement tenues trop étroitement contre elles. Elles ont couru. Elles se sont baissées pour ramasser des cailloux qu'elles ont jetés au loin par-dessus les haies. Elles n'ont pas pris garde à leur pépiment. Elles sont montées tout droit dans leur chambre. Elles ont tiré les oiseaux de leurs vêtements. Elles les ont trouvés sans vie et la tête affaissée. Tout à l'heure ont tenté de les ranimer en les pressant contre leur bouche, en laissant tomber sur eux leur souffle chaud, en relevant les têtes molles, en touchant du doigt leur bec. Ils sont restés inertes. Il y a 100 000 petites filles qui pleurent la mort de leur sœur invert dans les 100 000 chambres des 100 000 maisons. Marthe Vivonne et Valérie Séru font un rapport. Elles disent que le fleuve monte tout droit entre ses bords. Les champs de fleurs, ses rives sont entraînées par les eaux. Des corolles arrachées à la renverse tournoient dans le courant, chavirent. Il y a une odeur putride tout le long du fleuve. Le grondement, comme d'une écluse rompue, est entendu. Des barques retournées des rives. Des arbres entiers sont emportés, leurs branches chargées de fruits traînant dans l'eau. Marthe Vivonne et Valérie Séru disent qu'elles n'ont pas vu des cadavres d'animaux. Elles disent que longtemps sur le chemin du retour, elles ont entendu le roulement du fleuve, les heurts du courant contre son lit. Les bords du fleuve sont boueux. L'eau noire semble profonde. Avec un bâton, on n'en touche pas le fond. Des iris d'eau bleue pâle, des nénuphars rouges sont accrochés aux racines des arbres qui débordent au-dessus de la berge. Les têtes des nageuses apparaissent là-bas au milieu du fleuve. Elles se confondent avec leurs reflets sur l'eau. Quelques péniches noires remontant le fleuve est toujours sur le point de les atteindre. Les nageuses, touchées, il semble, s'engloutissent. Mais leurs têtes réapparaissent rondes, ballottées par le remous. Le sifflement long et strident d'une gardienne d'écluse se fait entendre. Il y a une fumée quelque part en amont. Le soleil n'est plus valide. L'eau s'obscurcit de plus en plus jusqu'à perdre son apparence liquide.
Les grues ont mis au jour les radicelles d'un arbre. Avec des pinces, elles ont décollé de la terre les extrémités filiformes, cassantes, frisées. Des feuilles racornies, atrophiées, pourries y sont accrochées. En délimitant systématiquement les zones dans lesquelles l'arbre s'est nourri, elles sont arrivées au centre de l'arbre, au tronc. Elles ont dégagé l'arbre enterré tout entier. Branches, feuilles, tronc, racines. Le tronc rongé, blanchi, est comme transparent. Les branches et les racines se ressemblent. Des branches et des racines principales partent des rameaux qui font un réseau compliqué et chevelu. à peine encombrée par endroits de quelques feuilles, de quelques fruits. Les premières nageuses qui s'avancent dans la rade du fleuve font sauter les poissons volants. Ils ont des corps ronds de couleur safran. On les voit se soulever hors de l'eau, s'élever. Ils retombent avec bruit. De toutes parts, les poissons se mettent à sortir de l'eau. À un moment donné, les nageuses se trouvent dans le banc. Les mains, les pieds, les bras, les jambes heurtent les corps pisciformes, les font surgir. Entre le ciel bleu pâle et l'eau ocre, il y a les corps rouges des poissons qui s'éloignent en sautant.
Parfois il pleut sur les îles oranges, vertes, bleues. Une brume alors se tient au-dessus d'elles sans dissimuler leur couleur. L'air que l'on respire est opaque et mouillé. Les poumons sont comme des éponges imbibées d'eau. Les requins avalent les colliers qu'on leur jette par-dessus bord pour les éloigner. Les verroteries en enfilade, les boules laiteuses. Certains restent accrochés aux dents de quelques requins qui se tournent et se retournent pour s'en débarrasser. Il se peut qu'on aperçoive son ventre blanc. Une végétation équatoriale est vue sur les rivages. Les arbres sont toujours très près de la mer. Ce sont des bananiers, des arangas, des oreodox, des eutrèpes, des arquiers, des lataniers, des cariotes, des hélices. À moins que ce soit les chênes verts de l'Écosse. Il n'y a pas d'abri le long des plages. Il n'y a pas d'anse. Il n'y a pas de port. Les îles sont ceinturées d'une frange de mer bleue de cérulum. Elles se tiennent par exemple sur le pont du bateau. Marie-Agnès Smir vomit les 47 oranges que par jeu elle a avalées entières. Elles tombent de sa bouche une à une, des filets de salive les accompagnent. À un moment donné, les sirènes des bateaux sont entendues.
Par grand vent, les feuilles tombent des arbres. On va les ramasser dans des corbeilles à pain. Certaines, à peine touchées, pourrissent. Elle s'éparpille dans les prés, dans les bois. Il y a dans les paniers des feuilles de châtaignier, de charme, d'érable, de girofliers, de gaillac, de copaillé, de chêne, de mandariniers, de saule, de hêtre rouge, d'orme, de platane, de térébinthe, de lataniers, de myrte. Thébaïr Jade les disperse dans la salle en criant « Mes amis, ne vous laissez pas abuser par votre imagination. Vous vous comparez entre vous aux fruits du châtaignier, aux clous de girofle, aux mandarines, aux oranges vertes. Mais vous n'êtes que les fruits de l'apparence. Comme les feuilles, au moindre souffle, vous vous envolez. Si belle que vous soyez, si forte, si légère, d'un entendement si subtil, si prompt, redoutez la dispersion. Restez jointe comme les caractères d'un livre. Ne quittez pas le recueil. Sur l'état de feuilles, elles sont assises en se donnant la main, en regardant au dehors les nuages qui passent.
Il arrive qu'elles marchent dans un champ de fleurs hautes. Les touffes d'un jaune orangé sont au-dessus de leur tête et se recourbent. Si elles trébuchent contre les tiges, des pistils secoués, ils tombent du pollen en grande quantité. La fleur géante est une hampe dont l'extrémité s'enroule sur elle-même. Elle est involutée. Elle reproduit le dessin d'une crosse épiscopale. L'hermaphrodite est une fleur qui dégage un parfum entêtant. Parmi les marcheuses, certaines ne peuvent plus porter. Elles tombent sur les genoux. Elle se laisse aller à terre, la tête ballante, le corps en chien de fusil. Ou bien, elle se tord les bras, elle crie, elle se jette, à plat ventre comme prise de folie. Les grandes fleurs jaunes, oranges et les herbes hautes sont éclairées par le soleil. Elles avancent dans la forêt, entre les tiges ligneuses et raides, le visage touché par le soleil, couvert du pollen qui sont tarés, ses pâches s'échappent des étamines qu'on ne voit pas. Elles vont à la rencontre des jeunes hommes. Leurs groupes se mélangent formant de longues chaînes. Elles les prennent par la main et leur posent des questions. Elles les entraînent au-dessus des collines. Elles montent avec eux les escaliers des hautes terrasses. Elles les font s'asseoir auprès d'elles sur les terres pleins. Ils apprennent leurs chants au cours des après-midi chaudes. Ils goûtent leurs fruits à la culture desquels ils s'initient. Ils cherchent à reconnaître les fleurs qu'elles leur désignent dans les parterres, les massifs, les prés, les champs. Elles choisissent avec eux des noms pour ce qui les entoure. Elles leur font regarder l'espace, qui de partout s'étend à leurs pieds. C'est une prairie illimitée, couverte de fleurs, de pâquerettes au printemps, de marguerites en été, en automne de colchiques blancs et bleus. C'est l'océan vert bleu couleur de lait où passent des bateaux ou bien vides. Ce sont des champs rasés de toute construction qui s'étendent à perte de vue, où poussent le blé, le seigle ou l'orge verte, le riz de couleur orange. Elles leur font apprécier la douceur du climat, identique suivant les saisons, que les jours et les nuits ne font pas varier. Après cette lecture, on va parler un peu plus précisément de ce qu'on a lu. Donc, je reviens un peu sur le livre en lui-même, qui est divisé en trois parties, qui a été précédemment dit. Voilà, donc là, on a lu des passages qui traitent surtout de la nature, de sa description et de son rapport à elle, de la nature comme environnement, de la faune et de la flore. Voilà, donc ces passages-là sont principalement dans la première partie. Donc je vais revenir un peu plus en détail sur la première partie. Là, je vais d'abord décrire un peu la faune et la flore de ce livre-là, donc qui est clairement une métaphore du corps, une métaphore du sexe, de la pratique sexuelle, du mouvement corporel comme les menstruations, la masturbation, la pénétration. C'est aussi le corps entier dans son environnement, quoi, posé comme tel. Donc voilà un peu la représentation de la nature dans les guerrières. On peut aussi voir une représentation de la société à certains moments. Donc voilà, si c'est dans la première partie, c'est pas un hasard, c'est que la première partie de ce bouquin, c'est très simplement une description de l'imaginaire de l'universalisation. Donc selon Wittig, l'universalisation, c'est la destruction du genre, qui rentre en complète opposition avec l'égalité du genre. Voilà. Donc la description de cet imaginaire, on pourrait s'attendre à quelque chose d'absolument idyllique, d'une utopie. C'est pas le cas, ce n'est pas un Éden. Voilà, puisque les rapports au corps et à ces interactions sont toujours enclins à des incertitudes, à des guerres internes, à la convoitise de ces corps, à son abandon comme dans le sens de la jouissance, comme aussi dans le fait d'abandonner son corps en le laissant tomber. Voilà, c'est aussi un rapport à la perte d'innocence et à sa retrouvaille parfois. Donc la communauté des guerrières vit dans ce monde, fait de toutes ses forces antagonistes, et elle l'appréhende comme telle, et évacue une dimension manichéenne. Donc à partir de là, on peut relier la nature, le corps et le territoire. Donc les guerrières cherchent à connaître l'environnement qui les entoure, à savoir le nommer, savoir ce qui est bon, savoir ce qui est à éviter, à connaître toutes les interactions possibles et à savoir habiter cet environnement aussi, c'est-à-dire faire corps avec les saisons, avec le rythme et avec le cycle qui revient assez régulièrement dans le bouquin dans plein de formes, donc on verra plus tard dans d'autres émissions. Voilà, et donc toutes ces connaissances, elles s'établissent sur différents aspects, donc notamment l'aspect scientifique, dans le fait justement d'appréhender toutes les formes de la nature, mais c'est aussi l'appréhender dans la forme spirituelle, donc en s'imprégnant d'histoires et de mythes autour de cette nature, comme l'arbre qu'elle découvre, qu'elle désenterre, qu'elle étudie, mais pas forcément d'une façon scientifique, aussi d'une façon presque mythologique. Voilà, et donc cette appréhension, cette habitation et cette connaissance de toutes ces dimensions, donc du corps, de la nature et de l'environnement, c'est la première étape de la défense d'un territoire.
Elles disent qu'elles appréhendent leur corps dans leur totalité. Elles disent qu'elles ne privilégiaient pas telle de ses parties sous prétexte qu'elle a été jadis l'objet d'un interdit. Elles disent qu'elles ne veulent pas être prisonnières de leur propre idéologie. Elles disent qu'elles n'ont pas recueilli et développé les symboles qui, dans les premiers temps, ont été nécessaires pour rendre leur force évidente. Par exemple, elles ne comparent pas les vulves au soleil, à la lune, aux étoiles. Elles ne disent pas que les vulves sont comme les soleils noirs dans la nuit éclatant. Voilà, donc on vient de voir, le passage que je viens de lire, c'est un passage qui est assez représentatif de la pensée de Wittig. Et nous, ce qu'on y a cherché à ce moment-là, c'est un peu, enfin, je continue ce que Jacques disait, c'est le parallèle évident, et même qui est même pas un parallèle, qui est l'indiscernabilité qui est posée dans le texte entre le corps et la nature. Et du coup, ce lien étroit qui est développé tout au long du récit, il est accentué de nombreuses fois, et encore plus par un mythe particulièrement connu, enfin qui d'ailleurs n'est pas un mythe, c'est les références aux Amazones. Du coup, je vais très vite revenir sur les Amazones, histoire que tout le monde soit dedans, mais je crois que j'ai pas envie de le présenter comme la plupart du temps, avec plein de noms, etc. C'est plutôt les erreurs que j'ai envie de pointer, dont les erreurs de traduction qui ont été faites. C'est-à-dire que Amazon, pour encore aujourd'hui la plupart des gens, ça veut dire privé de mamelles, ce qui est complètement faux en fait. Et c'est très très représentatif de qui étaient réellement les Amazones, parce que ça veut dire dans plusieurs langues, l'iranien, le persan, etc. Ça peut vouloir dire les guerriers, les peuplades. Il y a des références aux nomades, ça veut aussi dire ceux qui ne mangent pas de pain ou ceux qui vivent ensemble. Donc on voit, enfin c'est vraiment l'idée de communauté qui ressort très fort dans les Amazones. Et même géographiquement, en fait, le mythe et les scientifiques sont pas d'accord. Et du coup, j'ai pas envie d'essayer de chercher une vérité là-dedans. C'est plutôt leur coutume qui les caractérise. Et donc, dont les plus connus, c'est-à-dire d'estropier les hommes pour pas qu'ils puissent prendre le pouvoir, ou alors les envoyer ailleurs, etc. Et en fait, la société des Amazones, c'était vraiment, comment dire, c'est vraiment caricaturé comme la société matriarcale par excellence. Je pense qu'il y a une part de vrai quand même là-dedans. Et donc, ce qu'on en connaît, c'est aussi leur reine Hippolyte, qui est plusieurs fois nommée dans les guerrières d'ailleurs. Et moi, le détail que j'aime beaucoup chez les Amazones, c'est leur réflexion sur le sexe. Et pour le coup, elle, ce qu'elle portait, c'était de dire que les estropiés étaient les meilleurs amants. Parce que estropié, l'homme est obligé de compenser ailleurs. C'est un peu ça. Et du coup, le lien très fort qu'il y a entre les guerrières et les Amazones, c'est vraiment celui de la communauté. Celui de la communauté, mais pas seulement, il y a aussi celui des armes. Et du coup, tout ça, c'est finement lié à la défense d'un territoire. Du coup, Jacques a parlé de la première étape qui était la connaissance et l'appréhension de ce monde pour commencer à le défendre. Moi, je vais parler clairement des armes aussi et de... Comment dire ? En fait, et du lien étroit qui est fait, parce que ce qui distingue réellement les Amazones au-delà de la communauté qu'elles forment, c'est la guerre, en fait. C'est le fait que ce soit des guerrières. Et par exemple, elles utilisent les mêmes armes que celles des guerrières de Witig. C'est un bouclier en forme de demi-lune, c'est une lance, c'est énormément l'arc. Et du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est l'ennemi, en fait. Là où énormément de gens se trompent, que ce soit à propos des Amazones, mais encore plus à propos des guerrières, c'est que en fait, elles se battent pas contre les hommes. Le fondement politique là-dedans se trouve pas du tout là. Elles se battent contre les structures qui permettent la domination des hommes. Et du coup, c'est ça le parallèle que Wittig essaye de faire dans son livre. D'où le fait que, dans un des passages qu'on a lus tout à l'heure, les jeunes hommes les rejoignent à un moment. Et au-delà de ça, on peut voir une grosse, grosse référence au corps naturel. C'est-à-dire que, en fait, finalement, les Amazones, elles devenaient des armes en elles-mêmes. On le sait, elles se coupaient un sein pour éviter d'être gênées quand elles tiraient à l'arc. Et du coup, le lien étroit qui est fait entre les Amazones et les guerrières, il se situe énormément au niveau du corps, dans la manière dont elle décrit ces femmes, dont elle les nomme. Elle y cherche une référence évidente. Et donc, ça nous amène à la notion du corps naturel chez Wittig. Et c'est quelque chose qu'elle traite avec beaucoup, beaucoup d'humour. Parce que pour elle, c'est le langage qui finit par déformer le corps. Et donc finalement, ce qui devient corps naturel, c'est ce qui est nommé corps naturel. C'est l'exemple le plus simple, le plus connu, c'est celui des poils. Le fait que finalement, le corps naturel de la femme n'est pas poilu. Et donc, elle a envie de s'éloigner de la notion de nature. pour éviter qu'en fait la norme devienne le naturel. Et du coup, on y voit vraiment quelque chose dans... enfin, c'était une féministe matérialiste, vraiment, enfin, sa pensée, c'est ça. Et du coup, elle était amie avec Simone de Beauvoir. Et donc, on a une grande phrase de Simone de Beauvoir qui est le fondement du féminisme matérialiste, qui est « On ne naît pas femme, on le devient ». Et donc, c'est ce que Wittig porte très fort. Et pour moi, ce qu'elle cherche à nous faire entendre, c'est... finalement, il vaut mieux se couper un sein plutôt qu'essayer de devenir femme.